dans les cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle
bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des dossiers mensuels de Comaguerre sur Radio Galère, tous les deuxièmes mercredis du mois. Merci Sidi d'être avec nous fidèlement pour ces transmissions.
Bonsoir.
Bonsoir Sidi. Et j'allais dire, rarement une émission fut aussi opportune. Et j'explique. Nous sommes en pleine crise de l'impérialisme, ce que j'appelle la crise ukrainienne, pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un phénomène local, mais d'un phénomène qui diffracte sur la totalité des rapports de force de la planète. Et c'était le moment pour effectivement parler de l'impérialisme, la façon dont il fonctionne, la façon dont il évolue. Et c'était le moment d'y faire référence par rapport à celui qui en a forgé le concept, car le mot peut être utilisé sous différentes acceptions et sans beaucoup formaliser. Le concept d'impérialisme a été formalisé par un certain Vladimir Ilitch Lénine, qui a écrit un livre qui porte le titre que vous connaissez probablement tous, « L'impérialisme, stade suprême de du capitalisme ». Il écrit ça, enfin, le livre est publié début 17, il écrit ça en 1916, à un moment effectivement où l'impérialisme est à son sommet, et je résume, et puis on va développer, Annie Lacroix va développer, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucun coin de la planète, à l'époque où il écrit, qui échappe à la domination du capital des impérialismes. C'est-à-dire que partout, le capital et ses banques ont réussi à pénétrer, en Afrique, en Amérique latine, quasiment sur toute l'Asie, mis à part peut-être le Japon. Et puis il sait, parce qu'il milite pour ça et il n'est pas tout seul, il sait qu'un autre régime est en préparation, régime qui sera lancé par la révolution bolchevique. Et donc il dit, le stade suprême, c'est le moment où l'impérialisme est arrivé à sa plus grande extension planétaire, il contrôle la quasi-totalité de l'espèce humaine à quelques petites exceptions près, il est l'objet de conflits entre puissances impérialistes, il y en a plusieurs à l'époque, il ne sait pas qu'il y en a une, enfin, ou il devine peut-être qu'il y en a une qui va dominer, et que cette domination est en cours d'effritement. C'est ça qui a justifié le titre que j'ai donné à cette émission, c'est-à-dire du stade suprême, l'impérialisme sans limite, ayant tout conquis, étant partout chez lui, ce capitalisme bancaire et industriel est partout chez lui, jusqu'à la phase dans laquelle il se trouve, que j'appelle la phase terminale, c'est-à-dire où il traverse une crise grave, que Lénine lui-même appelle la putréfaction, appelez ça pourrissement si vous voulez, c'est-à-dire un moment où ce système a démontré à la très grande, la plus grande partie de l'espèce humaine qu'il n'était plus viable pour le bonheur de la communauté humaine des 8 milliards d'habitants qui la constituent aujourd'hui. C'est de ça que va nous entretenir avec tout le luxe de détails et de précision et de rigueur dont elle est possible, Annie Lacroix-Ry, l'historienne que vous connaissez. Bien entendu, il s'agit d'une heure et demie de discussion ou d'entretien où elle laisse libre cours à toutes ses connaissances et à sa perspicacité. Mais bien entendu, vous savez que sur Radio Galère, vous pouvez réécouter en podcast son émission, demain après-demain, quand vous voulez. C'est-à-dire dire, oh ben là, il y a des moments où je n'ai pas suivi, etc. Bon, repassez-la, elle sera sur les podcasts de Radio Galère. Prenez le temps de savourer ces 90 minutes d'Annie Lacroix-Ry. Et on terminera par un petit clin d'œil sur l'histoire contemporaine. En tout cas, on l'écoute. Merci aussi de votre attention. Et n'hésitez pas à réécouter Annie Lacroix-Ry et à le faire connaître à vos amis si ça vous paraît intéressant, ce qui me paraît indéniable. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne écoute surtout. Bonjour Annie Lacroix-Ry. Encore grand merci pour nous recevoir une nouvelle fois pour Radio Galère pour une nouvelle émission sur la politique internationale. Qui ne va pas changer de fil, car c'est ton fil, c'est ta lecture de tout un siècle,
avec tous les travaux qu'il y a derrière et toutes les heures de passage aux archives qui sont derrière, pour expliquer plus précisément comment se nouent les relations entre l'impérialisme dominant, je fais référence comme tu le fais toi-même à l'œuvre magistrale de Lénine là-dessus, avec ceux qui voudraient bien travailler avec lui, mais qui ne sont pas tout à fait assez puissants, qui voudraient bien être un allié intéressant, mais fidèle, jouer un rôle, je pense en particulier à l'Allemagne, qui joue un rôle central dans la politique européenne. Donc comment s'articule cette vision du monde par l'hégémonisme, par l'impérialisme dominant, et puis ceux qui voudraient bien lui rendre service et en même temps tirer leur épingle le but, je veux faire quelques affaires dans le cadre de cette politique générale. Comment ça se passe et depuis quand ça dure? Depuis longtemps, tu vas nous dire. Donc, on t'écoute avec plaisir.
Alors d'abord, bonjour et merci de venir discuter. Je crois qu'on peut faire avec l'impérialisme américain le constat de la durée. On peut dire que la question posée, là, c'est une question qui est aussi vieille que l'impérialisme, parce que à partir de la période impérialiste, c'est-à-dire grosso modo entre les années 70 et 90, on a finalement les lignes de force qui s'établissent de manière pratiquement définitive à ce jour, avec bien sûr dans la période récente une accentuation, mais qu'est-ce que Lénine, en 1916, constate dans une analyse qui repart de 1880 et qui s'arrête à la veille de la Première Guerre mondiale? Que le monde arrivé à son stade impérialiste est partagé entre plusieurs grands impérialismes. Alors dans l'ouvrage de Lénine, on parle assez peu du Japon et on parle surtout des États-Unis et des puissances européennes, à une époque où l'impérialisme européen semble encore dominant, ou est encore de façon fragile dominant, avec la Grande-Bretagne, les îles britanniques qui ont un empire sur lequel, comme disait Victoria, le soleil ne se couche jamais, mais qui avait pris vraiment sérieusement du plomb dans l'aile depuis les années 1870, ou l'impérialisme allemand qui était arrivé très tard, enfin dont la croissance industrielle est pratiquement contemporaine de la phase impérialiste, ce qui n'est pas le cas pour la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas le cas pour les pays qui ont connu la révolution industrielle au XVIIIe siècle. On est donc dans une situation où les États-Unis sont déjà dominants, ont un programme de conquête mondiale sur lequel on va essayer de réfléchir, où l'Allemagne a une croissance sur fond de crise, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans la phase impérialiste, on est dans la phase de naissance de l'impérialisme, on est au cœur d'une crise du système capitaliste qui dure de 1873 à 1914, que la Première Guerre mondiale d'ailleurs n'arrive même pas à liquider. Et on a donc les États-Unis, les puissances européennes qui ont commencé leur croissance industrielle un bon siècle ou deux siècles avant, l'Allemagne qui a un impérialisme au développement extraordinairement rapide, un peu d'ailleurs comme celui des États-Unis, et on laisse de côté, ce qui ne devrait pas être laissé de côté bien sûr, l'impérialisme japonais qui lui aussi se confond avec la phase industrielle du Japon à partir de 1868. Mais on va rester sur l'ensemble des impérialismes américains et européens, d'autant que ça permet de jeter un regard sur le monde, puisque d'une part les impérialismes européens ont pratiquement conquis le monde, sauf la part que le Japon maintient ou qu'il revendique, Et puis parce que les États-Unis ont un programme de conquête sur tout le monde. Il faut se rappeler, alors c'est très important toujours évidemment de réfléchir sur l'économie. Je dirais que c'est particulièrement important dans les périodes où on donne l'impression aux populations que seule l'idéologie compte. Parce qu'on est au cœur d'une phase qui est pourtant directement en liaison avec l'économie. On est au cœur d'une phase qui nous laisse entendre que tout va mal parce qu'il y a une puissance antidémocratique qui n'aime pas la liberté occidentale, qui s'en méprise à un pauvre petit pays victime. Et que se dégage par les temps qui courent une coalition de toutes les puissances dictatoriales contre le symbole de la démocratie, c'est-à-dire les États-Unis et l'ensemble des pays qui lui sont attachés. Ben, évidemment, quand on revient à 1890 ou 1914, on se rend bien compte que tout ça repose sur du vent. Parce que quand éclate la Première Guerre mondiale, on est depuis plusieurs décennies dans le contexte d'une concurrence acharnée entre les grands pays impérialistes qui se sont taillés à peu près le monde en pièces et puis qui voudraient bien, comme dit Lénine, repartager les partages qui se sont déjà opérés, disons, entre les années 1870 et 1880. Il faut penser que, par exemple, le congrès de Berlin du milieu des années 1880, il établit entre les puissances impérialistes dominantes à l'époque un partage de l'Afrique, hein, dont on a aujourd'hui encore les conséquences directes, et que tout ça, ça se fait sur fond de croissance américaine et une croissance américaine qui aboutit, une croissance toujours sur fond de crise, parce que le système impérialiste a développé les crises du capitalisme, celles que Marx avait analysées depuis les années 1840, d'une manière spectaculaire, et que c'est en 1899 qu'officiellement les États-Unis revendiquent ce qu'ils appellent la porte ouverte. Le principe de la porte ouverte, c'est pas difficile. Alors, c'est lancé par le discours célèbre d'un secrétaire d'État, H.I. Greg, qui explique que les privautés que se sont autorisées les puissances occidentales, les puissances européennes, en Chine comme ailleurs, ce sont des privautés que les États-Unis ne peuvent pas accepter, puisque ils veulent ouvrir à la concurrence, on dirait libre et non faussée de nos jours, ils veulent ouvrir à la concurrence tout ce que les pays impérialistes se sont déjà mis de côté. Et c'est considérable parce que à ce moment-là, ils ont taillé en pièces la Chine. Et d'ailleurs, le discours même sur la porte ouverte est un discours qui est centré sur la Chine, où les puissances occidentales, à la suite évidemment d'une domination qui a d'abord été assurée par la Grande-Bretagne depuis les années 1830 et la guerre de l'opium, où les puissances occidentales ont décidé de se tailler en pièces la Chine, et elle toute seule, parce que tout le monde y est, hein. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, tout le monde va tomber sur la Chine et lui infliger des humiliations dont la Chine n'est pas remise encore aujourd'hui. Hein, il faut se rappeler ce qu'a représenté la guerre des boxers, la répression atroce des puissances européennes contre le mouvement nationaliste chinois. Et il faut avoir ceci en tête, parce que quand on assiste comme aujourd'hui à des campagnes délirantes contre la méchante Chine qui veut dominer tout un chacun, qui veut se tailler en pièces le monde, il faut se rendre compte que les puissances impérialistes ont littéralement verrouillé le développement de la Chine, qui était un développement remarquable, pratiquement pour deux siècles. Et que actuellement, d'ailleurs, ces puissances, que ce soit les États-Unis ou leurs obligés, il faut bien dire leurs obligés puisqu'ils ont tous une position seconde, que les États-Unis et leurs obligés revendiquent quelque chose qui revendiquait en 1899 et qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc on est au cœur en fait des affrontements impérialistes pour dominer l'ensemble du monde, pour s'assurer le monopole ou le contrôle monopolistique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, le monopole des ressources. Je m'explique tout de suite parce que ça peut sembler vague. Le moment où les États-Unis ont contrôlé pratiquement tout l'approvisionnement pétrolier, tout le pétrole, c'est un moment, je pense, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo entre 1946 et les années 1950, où ils n'assurent pas la production mondiale par tout ce qu'ils possèdent, mais où ils se sont assurés le quasi-contrôle de l'ensemble de la production pétrolière. C'est-à-dire en mettant directement la main sur ce qu'avait conquis, et ce qui était énorme, sur ce qu'avait conquis l'impérialisme britannique, qui s'était taillé en pièces, l'Empire, l'ancien Empire ottoman, avec sa partie moyenne-orientale gigantesque, hein, puisque l'histoire de la poussée pétrolière des États-Unis, c'est pas seulement l'histoire pétrolière des États-Unis, c'est la mainmise sur l'ensemble de ce qu'avait acquis l'impérialisme britannique et qui se met en place entre la fin des années 30, les relations privilégiées illustrées par les mamours de Roosevelt à Ibn Saoud, donc l'Arabie Saoudite, et puis la mainmise sur l'Iran qui est achevée ou qui est en voie d'achèvement quand les États-Unis mettent la main sur l'Iran en 1953, avec le coup de la CIA organisé pour chasser le grand bourgeois Mossadegh qui avait la prétention de contrôler les richesses pétrolières de l'Iran et qui avait aussi la prétention de conserver avec l'Union soviétique des relations traditionnelles qui reposaient en partie sur le pétrole ou sur l'échange de services en matière pétrolière. On a donc là quelque chose qui est que même ce que les États-Unis ne possèdent pas directement, ils le contrôlent. C'est d'ailleurs un mode d'exercice privilégié des États-Unis qui est non seulement de posséder tout ce qui est pratiquement impossible, mais de mettre la main, de contrôler ce qu'ils ne possèdent pas. Et ça explique d'ailleurs, je le dis, j'anticipe un peu, mais ça explique par exemple que dans le cadre du plan Marshall, qui est un des plans de crédit léonin dont les États-Unis avaient besoin à l'égard de ce qu'ils appelaient leurs partenaires européens, dans ce cadre, le contrôle pétrolier n'était pas assuré, comme dans d'autres domaines, par l'obligation d'acheter américain, mais l'obligation, je dirais, d'acheter dans la zone américaine. Or, les États-Unis étaient en mesure à ce moment-là, et ça désolait la France, qui ne faisait pas grand-chose de cette désolation, c'est que les États-Unis avaient violé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale tous les accords précédents, en particulier l'accord de la ligne rouge de l'entre-deux-guerres, étaient en mesure de refuser à l'impérialisme français toute une série des positions qui s'étaient assurées entre les années 20 et les années 30, hein, qui sont là encore les lendemains de ce qui est un des grands empires pétroliers, c'est-à-dire l'empire britannique, la mainmise britannique sur l'empire ottoman. Et donc on n'était pas toujours obligé, on était obligé d'acheter du coton américain, on était obligé d'acheter du riz américain, on était obligé d'acheter, c'est même hallucinant quand on mesure. L'impérialisme américain, l'impérialisme dominant, ça se mesure de manière globale, et je dirais que ça se mesure de manière ça se mesure par branche. On voit sur chacun des produits, moi je viens de lire une thèse intéressante sur le coton, comment les États-Unis, qui ne sont plus en 1944-45 en fait, je dirais logiquement en situation de maîtriser le coton, parce que du coton est cultivé ailleurs, que des fabriques de coton se sont installées ailleurs qu'aux États-Unis, mais que la situation exceptionnelle dans laquelle les États-Unis se retrouvent en 1944-1945 leur permette de récupérer un marché cotonnier alors même que leur coton est en mesure de se casser la figure de manière spectaculaire. Donc, on ne pouvait pas acheter autre chose que du coton américain. Mais on pouvait éventuellement acheter du coton qui n'était pas, du pétrole qui n'était pas américain, parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au minimum, les États-Unis avaient la main mise sur plus des deux tiers du pétrole mondial, même celui qui ne possédait pas directement. Alors, évidemment, à partir des années 90, ce qu'on ignore souvent, les États-Unis sont vraiment l'impérialisme dominant. Et peut-être plus d'ailleurs qu'on ne le mesure encore en 1916, parce que les grandes explications, elles vont vraiment se dérouler au lendemain, enfin autour des lendemains de la Première Guerre mondiale. Ce qu'on ignore souvent, d'ailleurs, quelques-uns de mes collègues qui ont travaillé depuis les années 1980 sur le plan Marshall et les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale semblent penser que la maîtrise américaine de l'ensemble impérialiste, ça date surtout de la Deuxième Guerre mondiale. C'est faux. Ça date de la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale qui fait des États-Unis une vraie puissance européenne, qui réalise une première mainmise sur l'Europe. C'est une mainmise qui est considérable, mais qui demeure partielle. Parce que la puissance britannique, la puissance française, je laisse tomber, il y a d'autres impérialismes, bien sûr, mais la puissance la puissance britannique et la puissance française sont très, très affaiblies, mais il leur reste un peu dedans. Et ça explique d'ailleurs que le programme wilsonien ne puisse pas être mené à son terme. Alors, on a, à chaque période de l'histoire américaine qu'on analyse, on est très frappé par le contraste entre cette présentation permanente, idéologique de la situation et le fait qu'on ne repose, comme disait Marx dans le manifeste, que dans les eaux glacées du calcul égoïste. Parce que la question posée, c'est toujours la question du calcul égoïste, c'est-à-dire de ce que l'impérialisme dominant veut obtenir. Et ce n'est pas du tout, évidemment, l'image qu'on nous en a donnée, puisque le brave Wilson, Woodrow Wilson, est présenté comme un personnage bien sympathique, un peu genre professeur Tournesol, issu de l'université de Princeton, qui avait une pensée très idéaliste qui était illustrée par le fait qu'il voulait une société mondiale, qui s'est appelée la Société des Nations, qui réglerait tous les problèmes sans guerre. Et c'est extraordinaire qu'au terme de plus d'un siècle où les États-Unis ont réalisé mené le nombre de guerres le plus conséquent, le plus meurtrier, globalement, ils ont quand même réussi à faire mieux que les Allemands. Évidemment, sur un plus long délai, que ces États-Unis passent ou veuillent se faire passer, ce qui est l'objet de la campagne de propagande actuelle, pour une espèce de puissance tutélaire pacifique qui assure la sécurité du monde entier et qui protège les faibles, les orphelins et les femmes seules. En réalité, le programme wilsonien, c'est un programme qui n'a jamais varié depuis. C'est-à-dire, on ne partage rien, on veut tout. On a beaucoup de matières premières, mais on a besoin d'énormément de matières premières. On a une situation de surproduction chronique, qui est une surproduction qui s'est développée en même temps, d'ailleurs, que ce qu'arrivait à la naissance la phase impérialiste. C'est-à-dire que structurellement, depuis les années 1890, où les États-Unis sont devenus la première puissance industrielle mondiale, place qu'ils sont en passe de perdre de manière tout à fait imminente, depuis 1890, les États-Unis ont connu une situation de surproduction chronique. de surproduction chronique de leur agriculture, qui n'a été en position d'extrême aisance qu'à l'occasion des guerres mondiales, et puis dont la situation a été améliorée à l'occasion d'autres guerres, des nombreuses guerres dans lesquelles les États-Unis ont été directement impliqués, et situation dont ils ont été à l'origine. Alors, quel est le programme ? Maîtrise des matières premières, maîtrise de l'espace, c'est-à-dire ce qu'on connaît. Je demande à tous ceux qui nous entendent d'aller regarder sur un moyen quelconque, évidemment en ligne c'est encore plus facile, ce qui s'appelle les 14 points de Wilson, qu'on nous présente volontiers comme, là encore, le signe de l'extrême idéalisme de Wilson. Ben, ma foi, la libre circulation sur le Danube ou la liberté des mers, tout ça n'était pas très idéologique, mais visait comme la porte ouverte à dire, voilà, nous voulons le principe d'égalité. Alors, sur le principe d'égalité, je vais dire ce que disait un journaliste d'un journal dit libéral ou progressiste, parce que ça a le sens américain de liberal, c'est-à-dire plutôt pas à droite, ou dans une gauche même raisonnable. C'est-à-dire, la liberté, dans ces conditions, c'est la liberté entre un tigre et un mouton. Non pas, évidemment, qu'on puisse considérer que les autres impérialismes sont des moutons gentils, qui ont toujours été gentils, extrêmement gentils, par exemple, avec leurs empires coloniaux respectifs. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que quand les États-Unis réclamaient la liberté totale du commerce en 1944-45, et même en 1941, puisque, il faut le savoir, ce qu'on nous présente comme l'espèce de le nec plus ultra du libéralisme de Roosevelt, c'est-à-dire la déclaration des Nations Unies du 14 août 1941, c'est tout simplement, exactement comme le programme de Wilson, un programme de revendication de la maîtrise du monde, notamment via la liberté commerciale. Et la liberté commerciale, entre un tigre et un mouton, ça signifie quoi ? Que les États-Unis ont été, depuis l'entre-deux-guerres, avec une vigueur particulière dans la crise des années 30, où ils ont été d'une cruauté, je dirais, d'une exigence telle que ça a précipité d'ailleurs le conflit avec les autres impérialismes, y compris l'impérialisme allemand, les États-Unis prétendaient donc être vis-à-vis du commerce tout à fait libre. Hein. Vous nous ouvrez vos colonies, nous-mêmes, nous pratiquons le commerce libre. Or, c'est un gros mensonge. Les États-Unis ont connu, depuis la phase impérialiste, une tendance qu'ils ne peuvent plus respecter entièrement aujourd'hui, mais qu'ils respectent encore largement, c'est-à-dire un protectionnisme d'acier. Et le protectionnisme d'acier, qui a été mis en œuvre à partir des années 1890, qui a été rehaussé encore dans les années 1930, avec notamment ce qu'on appelle le tarif Taft-Hartley, est un protectionnisme qui a caractérisé toute la phase du deuxième après-guerre, où les États-Unis ont cependant seriné qu'ils voulaient le retour. Alors, je dirais que ce terme de retour est absurde. Le retour au libre commerce. Il ne pouvait pas y avoir de retour au libre commerce si on n'avait pas eu avant. Hein ? Et en particulier, le moyen. Alors, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, vous nous ouvrez vos empires coloniaux, vous abaissez vos tarifs douaniers, mais nous n'abaissons pas les nôtres. Et on n'a pas le temps de faire tout, mais pour vous voir dans quelle structure on est encore aujourd'hui, qu'est-ce que réalisent dans la Deuxième Guerre mondiale les États-Unis, qui n'avaient pas réussi encore à réaliser avec leur programme tutélaire, enfin leurs exigences de Wilson en 1918. Et qu'ils réalisent, en gros, à partir d'un pays cobaye, qui est leur principal partenaire et leur principal adversaire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le principal empire colonial sur lequel ils veulent mettre la main et sur lequel ils n'ont pas encore mis la main. C'est-à-dire cet énorme empire britannique qui se compose d'une part de colonies proprement dites et de ce qui est au 19e devenu le Commonwealth, hein, qu'on y pense, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tout ça c'est un énorme champ dont les États-Unis veulent faire leur champ, ce qui suppose que les États-Unis sont en mesure de faire ce qu'ils n'ont pas réussi après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de casser la structuration des marchés de leurs rivaux. La puissance de la Grande-Bretagne, c'est son empire, c'est ce qu'on appelle la zone sterling, c'est-à-dire un empire qui fonctionne par échange privilégié, échange de capitaux, échange de marchandises, entre les colonies proprement dites et les colonies évoluées, comme on disait à l'époque, les pays sur lesquels s'exerçait une tutelle totale et les pays sur lesquels s'exerçait une tutelle plus civilisée. Des échanges qui se faisaient sur la base d'une monnaie dominante qui était le sterling et qui n'empêchait pas, qui fonctionnait sur le principe de ce qu'on pourrait appeler, de ce que les Anglais appelaient justement la préférence impériale. C'est-à-dire, c'est à moi, tout le monde ne peut pas y mettre les pieds, c'est le principe de l'empire colonial. Hein. C'est à moi tout seul, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai des privilèges, vous ne les partagerez pas. Et au fond, dans l'entre-deux-guerres, je commence par l'empire britannique parce que c'est le plus considérable, dans l'entre-deux-guerres, l'équilibre, si fragile qu'il soit, il est assuré par cette préférence impériale, dans le cadre de laquelle, d'ailleurs, les Britanniques infligent en 1932 un échec cuisant à l'impérialisme américain, qui est précisément que, officiellement, la Grande-Bretagne, qui a été depuis le milieu du 19e siècle, un champion de ce qu'on appelle le libre-échange, sur des bases encore plus totales d'ailleurs que ce que les États-Unis appellent le libre-échange, pour une raison très simple, c'est que au 18e et au 19e siècle, au début du 19e siècle, la Grande-Bretagne, l'impérialisme, ce qui devient l'impérialisme britannique, a une supériorité telle qu'il peut parler de libre-commerce et pratiquer le libre-commerce. Sur le plan industriel, il écrabouille tout le monde. Et sur le plan des matières premières, et notamment des matières premières agricoles, il obtient de son empire des matières premières agricoles qui lui permettent d'écrabouiller complètement la classe paysanne à l'intérieur de la Grande-Bretagne et de pratiquer, il faut le rappeler, parce que là encore, on ne le rappelle pas. Pourtant, c'est le principe de fonctionnement du fameux marché commun, on ne le rappelle pas aux populations. Mais la clé pour la baisse des salaires, c'est évidemment le contrôle de matières premières agricoles à très bas prix. Je rappelle que la base de fixation des salaires, ça reste vrai aujourd'hui, et les populations commencent à le sentir avec le prix des produits alimentaires. Ce sont les produits alimentaires. C'est ça qui fixe la base du salaire. Et moi, j'étais toujours très frappée, quand j'étais prof du secondaire, par quelque chose ce qui montre la puissance de l'idéologie, que je n'arrivais jamais à faire trouver à mes élèves. Je leur disais, expliquez-moi pourquoi le marché commun a commencé par le marché commun agricole. Eh bien, j'avais toujours des bouches bées, qui n'arrivaient jamais à se débloquer. Je n'arrivais pas à faire trouver à mes élèves qu'on avait commencé par le marché commun parce que c'était la clé pour baisser les salaires. Et que, évidemment, les paysans, même s'il y avait quelques paysans prospères, les paysans n'étaient pas en mesure de résister au capital financier, aux exigences du capital financier. Donc la Grande-Bretagne, elle fonctionne comme ça. Et en 1932, dans le cadre de la crise, il faut le savoir d'ailleurs, la crise des années 30, a été pour l'impérialisme britannique, relativement, hein, une période de stabilisation de la catastrophe et de la catastrophe américaine, précisément parce que la Grande-Bretagne, qui avait pris en compte sa mise à l'écart. Je crois que c'est intéressant de parler en ce moment de la Grande-Bretagne parce que le parti conservateur aboie tellement contre la Russie comme naguère il aboyait contre l'Union soviétique que on a l'impression aussi que c'est un roquet efficace, mais c'est quand même un roquet qui s'est fait remanger la laine sur le dos par l'impérialisme américain grosso modo depuis la Première Guerre mondiale, hein, et il faut bien le dire, avec de plus en plus d'efficacité. Or, en 1932, tirant les conséquences de son affaiblissement considérable par rapport aux États-Unis, en particulier sur le plan industriel, et par rapport à l'Allemagne, parce que la Grande-Bretagne a bien mesuré sa très grande faiblesse par rapport à l'Allemagne, alors, il y a eu... à partir de 1875, il y a eu une brochure d'un journaliste qui est présenté toujours comme le symbole de la prise de conscience. Ça s'appelait « Made in Germany », par référence aux étiquettes de provenance et produits industriels. Donc la Grande-Bretagne s'était affaiblie considérablement sur le plan industriel par rapport à sa rivale impérialiste allemande et par rapport à sa rivale britannique. Elle avait avec grand peine prolongé son libre commerce, ce libre commerce qui lui permettait d'écrabouiller à peu près tout le monde, mais qui ne le lui permettait plus dans le cadre de la crise, et d'une crise qui n'était pas seulement la crise des années 30, mais qui avait été une crise extrêmement vive des années 20, du lendemain de la Première Guerre mondiale. Et en décrétant la préférence impériale, elle a sauvé, jusqu'au lendemain de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, elle a sauvé son commerce et en partie ses échanges de capitaux avec son empire, avec le Commonwealth. Et c'est ça qu'elle a perdu à partir de 1941. D'une manière dramatique, d'une manière que à peu près tout le monde ignore, parce qu'il est de bon ton d'ignorer cette chose qui est si importante dans l'analyse de Lénine de l'impérialisme, c'est-à-dire la concurrence féroce entre les capitaux des diverses puissances. D'abord, à l'intérieur de chaque pays, la concurrence énorme entre les capitaux, et entre les divers impérialismes, la concurrence féroce entre ces divers impérialismes nationaux. Et donc, l'objectif majeur, à partir des années 30 des États-Unis, confrontés à une crise gravissime, et à une crise gravissime qui fait qu'en 1939, les États-Unis n'ont pas du tout récupéré leur simple position commercial de 29. Il y a eu une sorte de sursis pour la Grande-Bretagne, sursis qui a connu un compte à rebours à partir de 1941. On insistera, moi j'ai beaucoup de collègues, je pense en particulier à l'un qui est particulièrement entiché de l'Europe et qu'on voit très souvent sur la chaîne parlementaire, dans les émissions historiques pour vanter les mérites de l'impérialisme américain, en particulier du glorieux plan Marshall qui nous aurait tous sortis de la mouise après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Gérard Bossuat qui considère que les États-Unis ont sauvé la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont tué la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est toujours étonné d'ailleurs que le mourant manifeste à l'égard de la grande puissance tutélaire cette capacité de caniche, comme avait été surnommé un récent dirigeant, non pas conservateur, mais travailliste, le fameux Tony Blair. On est toujours très surpris quand on sait que à partir du pré-bail de mars 1941 jusqu'à ratification, parce que ça a quand même duré, hein, vu l'épreuve que c'était pour la Grande-Bretagne, ça a un peu duré. Mais à partir de mars 1941, en gros, soit la Grande-Bretagne peut emprunter aux États-Unis, ce que les États-Unis ont besoin de vendre, soit elle crève. Hein, et par conséquent, elle ne peut conduire la guerre dans laquelle elle a été lancée après avoir copieusement piétiné toutes les possibilités de s'en sortir pendant les décennies précédentes, disons de 1918 à 1939, la Grande-Bretagne subit une véritable loi d'airain. Hein, une loi de bronze ou de fer qui... Je pense d'ailleurs qu'il nous faudrait, rien que sur le prébail, une émission, parce que je crois que à ne pas connaître les sources, je crois qu'on ne peut pas percevoir la violence des chocs. Le prébail pour la Grande-Bretagne, c'est effrayant. Je ne vais donner qu'un exemple. Les États-Unis donc ont absolument besoin, évidemment, de vendre de ci et de là, bien que incontestablement, la guerre leur crée de nouveaux marchés énormes. Hein, ça, personne n'en doute. Mais parmi leurs nouveaux marchés énormes, il faut bien vendre aux belligérants. Et donc, comme dans le cadre de la Première Guerre mondiale, c'est aux emprunteurs britanniques, évidemment, que va le rôle dominant en la matière. Et donc, l'emprunteur britannique, quand il emprunte, en vertu de ce qu'on appelle la loi de prébail, en anglais « land lease », hein, on connaît ça parce qu'on fait du leasing de voiture, bon, bah c'est de l'emprunt, qui succédait à ce qu'on appelait la loi « cash and carry », c'est-à-dire tu m'achètes des marchandises, mais tu ne peux pas m'acheter si tu ne paies pas comptant, hein, qui avait présidé aux préparatifs de la guerre. Désormais, la Grande-Bretagne achète à crédit. Elle achète monstrueusement à crédit.
C'est-à-dire, je te vends, mais tu empruntes.
Voilà.
L'argent revient chez moi, in fine.
Voilà, c'est-à-dire... Non seulement tu vas m'emprunter, ce qui va me permettre, moi, de placer des capitaux excédentaires, mais il va falloir que tu commences quand même déjà à régler, parce qu'il faut faire attention, le lend-lease, c'est pas « je paie rien ». C'est « je commence à me libérer de ma dette », par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vends toute une série de mes possessions. Je vends la courteau, je vends... beaucoup de choses dans le Commonwealth. Enfin bref, pendant la guerre de 1941-1945, la Grande-Bretagne perd déjà une partie massive, énorme de ses capitaux.
Elle rembourse en nature avec son capitalisme.
Pour payer des échéances, parce qu'elle doit en payer, elle cède la Courteau, toute une série d'énormes entreprises. Il faut le savoir. Alors, je recommande la lecture d'un bouquin qui a dû paraître chez Colin en 1993. J'oublie toujours le nom de son auteur, qui s'appelle « L'histoire économique de la Grande-Bretagne depuis 1873 ». Et qui est un livre de synthèse, un très bon livre de synthèse, qui montre que la Deuxième Guerre mondiale a ruiné l'impérialisme britannique et que les États-Unis ont procédé avec une cruauté, je dirais, qui n'a rien à envier à la cruauté coloniale des grands empires britanniques, français, etc., allemands.
Sans oublier le cynisme, vous vous battez pour nous.
Ah oui, dirais que le summum du cynisme, on en parlera relativement peu aujourd'hui, mais le summum du cynisme est atteint avec l'Union soviétique, qui permet aux États-Unis de remporter la victoire sans dommages militaires. Je rappelle pour mémoire, selon des statistiques récentes, moins de 300 000 morts sur tous les fronts, ce qui est tout à fait important, pacifique et européen pour les États-Unis, je dis bien moins de 300 000 morts et aucune victime civile, 30 millions entre 27 et 30 millions de soviétiques liquidés par la guerre allemande. Alors, il faut déjà avoir ça en tête. Et donc, on se retrouve dans une situation où les États-Unis sont en mesure non seulement d'obliger la Grande-Bretagne à se dessaisir d'une partie de ses possessions impériales et impérialistes, mais, alors de quelque chose, je crois, qui surprendrait tout le monde, et qui est pourtant la règle qui va présider à l'ensemble de la politique de prêt. Parce qu'il faut le savoir, toute la politique de prêt, elle est fixée en 1941. Il n'y a plus aucune règle qui sera nouvelle. On nous rebat les oreilles avec le plan Marshall, qui, paraît-il d'ailleurs, nous aurait sorti de la misère, vu que à chaque fois qu'il se passe aujourd'hui quelque chose, tiens, si on faisait un plan Marshall sur les banlieues, tiens, si on faisait un plan Marshall sur les hôpitaux. Qu'à Dieu ne plaise, dirais-je, si j'étais croyante, mais précisément, c'est une solution calamiteuse. Alors, il y a ça, il y a la cession, toute une partie d'éléments essentiels, et puis il y a presque mieux encore, c'est que les États-Unis décrètent que, à partir du moment où la Grande-Bretagne leur achète un produit, on m'entend bien, hein, du charbon, du sucre, la Grande-Bretagne n'a plus le droit de réexporter un produit dans lequel un produit, non pas le produit américain, mais un produit équivalent au produit américain entre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 1941-1942, les États-Unis ont mis la main sur l'ensemble du commerce extérieur de la Grande-Bretagne.
Ils en sont le monopoleur.
Voilà. Il faut le savoir.
Oui, oui, oui.
Cette clause de non-réexportation, qui est la clause Marshall, qui est la clause des accords de 45 pour la France, la clause des accords de 45, de 46, du pré-plan Marshall, du plan Marshall, etc., c'est quelque chose qui est complètement ignoré et évidemment qui est au cœur de ces fameux prêts. Réfléchissons à ce qui fait la clé des prêts. La clé des prêts, c'est la même clé renforcée, si je puis dire, que la clé antérieure, c'est-à-dire que les États-Unis ont besoin d'exporter massivement, mais que exporter massivement, c'est possible. Dans un système qui est celui qu'a connu l'impérialisme européen avec les pays non impérialistes ou entre-impérialistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui a fonctionné dans l'entre-deux-guerres, qui a beaucoup fonctionné dans la crise, un système d'échange, de vrai échange, qu'on a appelé clearing, c'est-à-dire un processus de compensation entre 19e et le 20e, ça s'est fait par échange entre le produit, la production industrielle de l'Ouest, je dis globalement, hein, parce qu'il y a des exceptions, la production industrielle de l'Ouest, qui avait partout établi la révolution industrielle et qui avait une avance considérable sur l'Est, donc du 19e, à 1945, ou un peu au-delà, le système européen était caractérisé par un échange entre l'Europe industrielle et l'Europe non industrielle, matière première de l'Europe non industrielle contre produits fabriqués de l'Europe industrielle, ce qui était très défavorable à l'Europe non industrielle, puisqu'elle vendait à très bas prix, dans des conditions de structure capitaliste beaucoup moins développées, elle vendait des produits, des matières premières à bas prix à des pays qui vendaient des produits industriels, de la production transformée à très haut prix. C'est comme ça, il faut le savoir, que l'impérialisme allemand a mis la main sur l'ensemble de l'Europe orientale avant la Deuxième Guerre mondiale. Et a d'ailleurs favorisé les conditions de déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, puisque, il faut le savoir, l'Allemagne dominait le commerce extérieur de l'Europe centrale et orientale, parfois représentait les deux tiers ou les trois quarts du commerce extérieur des pays d'Europe orientale, que ce soit la Yougoslavie, la Bulgarie. Avant de mettre le pied par les militaires dans un pays, on subjugue un pays. Et on le subjugue évidemment par les armes de l'économie. Bon. Et ce système, aussi chaotique que soit le capitalisme et ses crises, ce système, il a permis de surmonter la crise des années 30, c'est-à-dire que ce clearing, qui n'a pas été seulement pratiqué par l'Allemagne, qui a été pratiqué à peu près par tout le monde, puisque l'Allemagne était un élément majeur du commerce extérieur pendant l'entre-deux-guerres, ce commerce, il reposait évidemment d'une part sur la prééminence de la zone sterling, mais aussi, je dirais, sur une certaine autonomie des autres zones, parce que le clearing permettait d'échanger des marchandises et de régler avec une monnaie ou l'autre, ce qui devient, et l'objectif est fixé en 1941, impossible avec la maîtrise du dollar. Il faut comprendre pourquoi les États-Unis perdent le sens à chaque fois qu'un pays a l'audace de mettre en cause la prééminence du dollar. Parce que qu'est-ce qui a permis la réalisation du programme wilsonien et du programme rooseveltien? C'est la conquête acquise, c'est la victoire acquise à Bretton Woods dans la conférence de juillet, du 2 au 21 juillet, si je ne m'abuse, 1944, à Bretton Woods. Il faut comprendre que c'est une origine majeure des déséquilibres du monde depuis lors, c'est-à-dire que les États-Unis exige, alors que le système capitaliste a reposé sur un échange entre monnaies, voire un échange sans monnaie, ça institue ce qu'ils ont appelé le multilatéralisme, qui est une vaste fumisterie. Il n'y a jamais eu autant d'unilatéralisme que depuis Bretton Woods. Pourquoi? Parce que là où les pays commerçaient ensemble et en utilisant leur devise ou pas de devise du tout, on est passé d'une situation qui rend d'ailleurs pour les États-Unis le commerce extérieur vital, où les États-Unis ont une surproduction énorme, il faut bien qu'ils placent, et étant donné que le dollar est décrété monnaie de paiement international, il faut bien avoir du dollar pour payer. Or, du dollar, comment est-ce que les pays acquéreurs de produits américains peuvent pas en acquérir parce que le protectionnisme est énorme. C'est ce qu'on a appelé, dans tout l'après-guerre, le dollar gap, le trou de dollar. Et mes collègues dissertent doctement sur l'origine du dollar gap. L'origine du dollar gap, elle est très simple. Vous m'achetez des produits. Il faut que vous les payiez en dollars. Comment vous procurez des dollars? En achetant dans la zone dollar et en achetant que la zone dollar achète dans la zone non dollar. Et comme ça n'a pas été possible, puisque pendant 20 ans ça a été impossible, on est entré dans une situation. C'est cette situation d'ailleurs à laquelle de Gaulle, ça lui a valu son éviction manu militari en 1968, à laquelle de Gaulle a prétendu remédier dans les années 60, en commençant lui aussi, comme d'autres pays, à remettre en cause la dictature du dollar. Il faut bien comprendre que le système de la dictature de la monnaie du pays impérialiste le plus puissant à bloquer les conditions de fonctionnement des économies depuis 1944. Et ça, personne ne le sait, ou presque dans nos pays, sauf évidemment du côté des fouilleurs d'archives. Il y en a beaucoup d'ailleurs de fouilleurs d'archives, mais dont les livres ne sont lus par à peu près personne, que ça se passe aux États-Unis ou ailleurs, parce que parmi les meilleurs analystes, il y a les historiens américains, hein, qui ont montré à quel point ce système était un système fatal à peu près tous les pays possibles. Et on n'en est pas sorti, mais on est en train de voir l'amorce d'une sortie. C'est ce qu'il faut bien mesurer dans ce qui se passe aujourd'hui, pour en venir à la situation, à la conjoncture actuelle, ce qui est en cause aujourd'hui. Ce n'est pas seulement évidemment la poursuite par l'impérialisme américain d'un vieux rêve qui semble en voie de, enfin qui a progressé considérablement avec la chute de l'URSS et depuis, c'est-à-dire d'un vieux rêve qui consiste à contrôler la totalité de l'Europe. C'est pas seulement ça. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la caractéristique d'extéritorialité des lois américaines qui font que quand les États-Unis ont décidé de mettre en œuvre une pratique, cette pratique a prééminence sur l'ensemble de la législation nationale de l'ensemble des partenaires et adversaires. Et chaque pays qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, s'est mis en tête de faire basculer ce qui est le pivot, c'est-à-dire ce fameux projet White de Bretton Woods qui s'impose contre le projet britannique, depuis 1944, on est dans le cadre d'une mainmise sur le monde qui est au cœur de ce qui s'est produit en Europe ces dernières décennies. Puisque, somme toute, les États-Unis se sont mis en mesure de réaliser un programme d'expansion globale qui est entièrement, qui est antérieur bien sûr à la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est entièrement, je dirais, transcrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a une série de très grands historiens, des historiens militaires, des historiens économiques. Je pense pour les historiens militaires en particulier à des historiens comme Sherwin, qui ont montré d'ailleurs à quel point la guerre était essentielle, était vitale pour l'impérialisme américain, c'est-à-dire qui montre comment le projet d'expansion américaine est un projet qui passe par une guerre permanente. Parce que quand vous prétendez maîtriser l'ensemble du monde, vous entrez dans une situation de conflit. Et d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale se caractérise du côté des États-Unis par les préparatifs, non pas, comme ça a été dit officiellement et présenté officiellement comme programme, non pas de limiter les prétentions d'un partenaire impérialiste un peu gênant, c'est-à-dire l'Allemagne. Or, ça a été le prétexte officiel. On veut empêcher l'Allemagne de déclencher une troisième guerre mondiale. Comme le montrent des gens comme Sherwin, en fait, le programme de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un programme de guerre contre l'URSS. Et pourquoi de guerre contre l'URSS ? Oh ben, on me dira parce que quand même, ce système autoritaire, désagréable, antidémocratique, gêne beaucoup les États-Unis démocratiques. Pas du tout. C'est parce que l'Union soviétique représente à ce moment-là plus de 22, enfin potentiellement, disons, à ses frontières de 40-41, représente un potentiel de 22,4 millions de kilomètres carrés, de très loin le pays le plus important des terres émergées. Les États-Unis, ça fait environ 9 millions de kilomètres carrés. Et que les circonstances particulières de la Deuxième Guerre mondiale donnent l'espoir à l'Union soviétique, non pas d'établir sa mainmise impérialiste, parce que l'Union soviétique, pour des raisons qui ressortent la présence, enfin de la nature du capitalisme n'est pas un pays impérialiste, l'Union soviétique revendique pendant la Deuxième Guerre mondiale la capacité de sortir du cauchemar du cordon sanitaire. C'est-à-dire, vous êtes bien gentils, vous allez cesser d'utiliser l'Europe centrale et orientale comme voie d'invasion contre nous. Par conséquent, nous revendiquons toute une zone qui sera une sorte de glacis à laquelle nous ne demanderons pas grand-chose, sauf d'avoir une politique extérieure compatible avec la nôtre. Même pas de politique intérieure, ce que tout le monde ignore. Parce que, en fait, l'Union soviétique, tant que la formule tripartite, quadripartite, etc., ménageait la politique extérieure tranquille, elle ne demandait rien. Ce que tout le monde ignore aujourd'hui, hein, parce qu'on a l'impression que c'est l'Union soviétique qui a mis sa main sur l'Est. Pas du tout. D'ailleurs, il faut le dire, à l'avantage de nos diplomates, pays par pays, l'ont très bien analysé. Moi, je renvoie en particulier aux extraordinaires présentations de la situation tchécoslovaque 1945-1948, et aux explications de notre ambassadeur anti-soviétique, comme tout le monde, expliquant cependant que en Tchécoslovaquie, ça a tenu jusqu'en 1947, c'est-à-dire jusqu'à l'exigence américaine du plan Marshall, vous êtes obligé de choisir, alors que même les réactionnaires ne voulaient pas trop choisir en matière extérieure. C'est ça qui a, précipité les choses. Les États-Unis, beaucoup d'historiens américains l'ont montré, ne voulaient pas plus pendant la Deuxième Guerre mondiale que pendant la Première établir une situation de partage. C'est ce qui fait, je dirais, presque l'originalité par rapport au tableau de 1916 de Lénine, qui est un tableau de 1913, hein, des rapports de force d'avant la Première Guerre mondiale. C'est ce qui fait l'originalité de cet impérialisme, je dirais, porté à un degré de puissance que n'avait connu aucun pays impérialiste. C'est-à-dire, nous ne voulons pas partager. Or, quelle est la question posée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les impérialismes partenaires ou alliés théoriques, d'une part, ces impérialismes alliés des États-Unis, et d'autre part, la Russie soviétique, qui se trouve être une alliée de circonstance, puisqu'on a besoin d'elle pour gagner physiquement la guerre, hein. La guerre militaire, c'est par l'Union soviétique qu'elle a été remportée, c'est par personne d'autre. Tout le monde le savait en 1945, et nous sommes dans une situation idéologique qui a rendu les choses illisibles, puisque ça fait maintenant 30 ans, pas, du temps de Gaulle, ça n'était pas le cas, ou disons 50 ans, qu'on nous serine que ce sont les États-Unis qui nous ont libérés de la guerre allemande. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'Union soviétique, point. Tout le monde était d'accord sur ce point, et de Gaulle, je dirais, était le premier à le dire, qui, je le rappelle, a toujours refusé de se rendre aux festivités du débarquement du 6 juin 1944, qui d'ailleurs l'avait rendu malade, puisque les Américains voulaient l'empêcher de débarquer, et qu'il a débarqué contre les Américains, les pieds dans l'eau, tant Roosevelt lui avait fait de misère. Mais ne nous perdons pas et revenons à nos moutons. On est donc dans une situation où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont en mesure de dire il n'y aura pas dans le monde un pays où nous ne poserons pas ad libitum nos avions. Nous aurons des bases partout. Alors, c'est très intéressant, je trouve, aujourd'hui, de constater que, alors qu'on nous explique que la Russie veut absolument mettre la main non seulement sur l'Ukraine, mais toute l'Europe centrale, menace la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, tout ça, la Finlande, la Suède, c'est tout à fait remarquable de constater que la question des bases, qui est une question centrale de la Deuxième Guerre mondiale, je dis bien centrale, parce que la question des bases, c'est pas seulement une question militaire, c'est une question de contrôle économique des zones. Les États-Unis pensent, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avoir la force d'établir des bases partout, y compris en Union soviétique. Alors les soviétiques sont assez débonnaires, mais ça, ils ont dit aux Américains, vous êtes bien gentils, non, non, vous posez pas vos avions chez nous. Hein. Pas du tout. Il n'en est pas question. Ils les ont posés partout. Je rappelle qu'aujourd'hui, ils en ont près de 100. Je rappelle que la Russie en a une à l'extérieur de ses frontières. Si nous n'abêtissions pas les populations au point où nous l'avons fait, est-ce qu'un esprit, un minimum sensé, c'est-à-dire grosso modo à peu près 98% de la population, ne serait pas en mesure de se dire que tout de même 85 à 100 bases permettant de contrôler un pays entier, c'est beaucoup plus qu'une base? Ben non, on arrive à un point où on ne le peut pas constater. Alors évidemment, des bases, ça veut dire que on est entré quand même dans une situation où, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, d'abord, ont été en mesure d'éliminer le rival allié allemand de manière significative, parce que le rival allié allemand, il a quand même eu des colonies, et donc... des bases, de fait, il n'en a plus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne est un pays qui a évidemment encore des prétentions, qui a raison d'en avoir d'ailleurs, parce que la défaite de la Première Guerre mondiale n'a pas aboli un partenariat fructueux entre les États-Unis et l'Allemagne, mais elle a fait la Deuxième Guerre mondiale, le bilan de la Deuxième Guerre mondiale a fait cependant du très puissant impérialisme allemand que les États-Unis ont aidé à se reconstituer extrêmement vite, comme la première fois. Parce qu'on ne le sait pas, hein, mais la Deuxième Guerre mondiale reproduit exactement le schéma de la première. Mais alors exactement. Hein, sauf que entre-temps, la conjoncture politique s'est un peu modifiée et que, c'est modifié. Oui, c'est quand même modifié parce que en 1917, la Russie devient une paria, elle est écartée de tous les accords d'après-guerre, alors que quand même, en 1945, il faut consentir à la Russie, à l'Union soviétique victorieuse, quand même quelques petites concessions. Je rappelle, ce qui est, je crois, largement ignoré, que les États-Unis, en 1944, via leur ambassadeur, un milliardaire comme il est habituel, un grand milliardaire, Avril Harriman, qui va jouer d'ailleurs dans les décennies suivantes un rôle tout à fait remarquable, ambassadeur itinérant du plan Marshall, ambassadeur à Paris, mais beaucoup Paris, j'aime tous beaucoup Paris, c'est vrai que c'est une jolie ville. Harriman explique en février-mars 1944 au département d'État depuis Moscou que les États-Unis sont dans une situation de force, de puissance à l'égard de la Russie affaiblie, accablée, appauvrie, telle que la Russie ne réussira pas à se ménager une zone d'influence et qu'il suffira du promettre pour panser ses plaies $1 milliard de prêts pour la faire se tenir tranquille. L'Union soviétique a été extrêmement débonnaire, a, je dirais, heureusement pour elle, en tout cas pour un certain temps, esquiver cette obligation, et elle a quand même eu une zone d'influence entre 1945 et 1949. Alors, dans quelle situation? Évidemment, là, on va, compte tenu du temps imparti, on ne va pas avoir le temps de faire le détail, mais il faut bien comprendre qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une situation entre les États-Unis et les pays obligés qu'ils aient été anciens ennemis officiels comme l'Allemagne ou alliés officiels comme la Grande-Bretagne, alliés par excellence, etc. Alliés de fait d'ailleurs, puisque on sait très bien que le fait d'être France de Vichy n'a pas du tout empêché Washington d'apprécier la France à sa juste valeur. Vichy leur plaisait beaucoup, De Gaulle ne leur plaisait pas du tout, ne leur a d'ailleurs jamais plu. Mais on est dans une situation où on a des impérialismes hein, qui n'ont pas renoncé à tout, ils ont renoncé à beaucoup. La Grande-Bretagne sort de là très affaiblie. L'affaiblissement consécutif à la Deuxième Guerre mondiale l'affaiblit encore. C'est affreux même. Je dirais que la Grande-Bretagne, elle a pratiquement tout perdu. Travailliste ou conservateur, ils aboient beaucoup. En particulier, d'ailleurs, dans la période récente, ils ont aboyé beaucoup. Je pense à Tony Blair et compagnie, et bien sûr à Johnson, qui est aussi déchaîné contre la Russie non soviétique que l'était l'était Churchill quand il était le chef de la coalition des 14 pays attaquant la jeune Russie soviétique en janvier 1918. Mais on a une Grande-Bretagne qui a perdu énormément de sa superbe. Hein. Elle a perdu son empire, une partie énorme de son empire en général, de son empire pétrolier en particulier, puisqu'elle s'est quand même fait raboter l'Arabie Saoudite, tout de l'Arabie Saoudite à l'Iran. Bon, on a un impérialisme français qu'il faut bien le dire. Alors moi, je peux le dire de manière sûre parce que quand même, je fréquente beaucoup les archives du Quai d'Orsay. Il faut bien dire que, sachant que, évidemment, je n'ai pas vu les archives après la période de De Gaulle. J'aurais pu, elles sont ouvertes, mais bon, je m'occupe aussi d'autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est que on est entré dans une période de dépendance en France, de dépendance coloniale, comme la France n'avait jamais atteint dans sa pire période pro-allemande. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un processus de colonisation, je dis bien au sens strict de colonisation, dont je dirais non seulement nous ne sommes pas sortis, mais dont nous mesurons aujourd'hui tous les effets, effets majorés par le fait que la France, dans son rapport avec les États-Unis et l'Allemagne, s'est laissée, pour des raisons qui intéressaient son capital financier, littéralement dépossédée de tout son appareil industriel. Ce qui n'est pas le cas de l'entre-deux-guerres. La France est un pays non négligeable dans l'entre-deux-guerres. C'est vrai que, comme disait Lénine, dans l'impérialisme au statut suprême du capitalisme, la France capitaliste est un pays de coupons, hein, qui est en quelque sorte un pays rentier. Mais ce pays rentier avait, dans l'entre-deux-guerres, tout de même largement, d'abord était un pays industriel avant la Première Guerre mondiale et avait largement développé son assise industrielle. La France est par exemple un des pays les plus forts en matière aéronautique. Ce qui explique d'ailleurs, moi je le vois dans mes travaux actuels là, sur l'après-guerre, que comme tout pays de ce type, la France ait été une cible particulièrement visée par les États-Unis qui voulaient également la totale prééminence aéronautique. De toute façon, c'est pas difficile, la prééminence en tout. Bon. Mais on entre dans une période où affaiblissement veut dire dépendance plus grande. C'est-à-dire, finalement, moi j'en arrive à la conclusion, en étant en mesure de travailler maintenant, de préparer un ouvrage sur la période 40-50, hein, grosso modo du pré-bail jusqu'au fameux plan Marshall dont on nous rebat les oreilles, j'en arrive vraiment à la conclusion que, sauf période de De Gaulle, souvent très ambiguë, parce que De Gaulle est un homme de la bourgeoisie qui est entièrement attaché à la bourgeoisie malgré son mépris pour la grande bourgeoisie, que de Gaulle n'est pas, n'a pas de capacité vraiment de résister, mais que de Gaulle est un relatif résistant, c'est-à-dire que de Gaulle a été à la tête du pays impérialiste qu'est la France, le seul de 1942 à 1969, c'est-à-dire le seul de 1942 à janvier 1946, puis de mai 1958 à 1969, à l'échec du référendum de 1969, le seul homme politique des pays impérialistes européens à être au moins dans une certaine mesure capable de dire non. Et même de gêner, pas seulement comme un moucheron, de gêner les États-Unis. Ce qui explique d'ailleurs les méthodes expéditives qu'ils ont fini par utiliser contre lui, méthodes expéditives qui pratiquaient de manière bien plus rapide et bien plus radicale dans leur arrière-cour et dans tous les pays où ils exerçaient leurs bonnes œuvres. J'en profite pour dire d'ailleurs que j'ai un peu honte de moi, c'est en travaillant sur mon dernier livre que je me suis aperçu, ce qui est quand même tout à fait intéressant, je me suis aperçu que l'ambassadeur qu'on nous a collé sur les reins de décembre 1944, janvier 1945 à Paris, c'est-à-dire Jefferson Caffrey, jusqu'au début des années 50, dont on peut dire qu'il a exercé une tutelle sur les partis non communistes à peu près inimaginable. Hein. Et quand même quelqu'un qui avait passé 20 ans de sa vie antérieure dans l'arrière-cour latino-américaine, qui avait été là-bas le délégué, entre autres, de l'United Fruit, et qui, en 1928, dans un document qui ne figure naturellement pas dans les archives publiées, mais que j'ai trouvé dans un trésor en ligne, qui, en 1928, se vantait d'avoir appris, de venir d'apprendre, d'avoir eu la communication que je vais indiquer, c'est-à-dire que des grévistes de Colombie venaient de se faire assassiner par centaines par les délégués militaires de l'United Fruit, et ils présentaient la chose comme une victoire militaire. Et j'ai trouvé fascinant, j'ai eu un peu honte de ne pas l'avoir su avant, nous soyons dotés d'un ambassadeur qui pendant 20 ans avait écrabouillé l'arrière-cour au service de l'United Fruit et qui était obligé de servir les intérêts de l'United Fruit et de divers autres monopoles américains, tout de même avec, en tout cas formellement, des apparences plus civilisées que ce n'était le cas. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que j'ai mesuré là à quel point finalement le deuxième après-guerre a permis à l'impérialisme américain de généraliser au monde à peu près entier les méthodes de terreur qui avaient été appliquées sans discontinuité de la fin des années 90, avec la conquête de Cuba sur les vieux empires, et notamment les empires hispaniques, avaient été en mesure de généraliser au monde presque entier les méthodes expéditives qui ont été les leurs, consistant à changer les gouvernements ad libitum. Il y a d'ailleurs un excellent historien américain, peut-être pas toujours très approfondi, mais quand même très très excellent, qui s'appelle Schmitz et qui a fait deux études, deux bouquins sur la manière dont les États-Unis pratique avec les dictatures de droite, parce qu'ils n'aiment pas les dictatures de gauche, mais ils adorent les dictatures de droite, et qui montre comment l'Empire américain, dans la période de l'entre-deux-guerres à 1945, a écrabouillé en permanence, notamment l'Amérique latine, et comment, ma foi, ces méthodes se sont ensuite développées au-delà, avec des épisodes célèbres, évidemment, non seulement dans l'arrière-cour où ça a continué, hein, pensons à l'ensemble de l'Amérique latine, et notamment au coup d'État contre Arbenz, mais à l'Iran, mais à l'ensemble des énormes puissances comme le Panama, où les États-Unis pouvaient expliquer à leur population, avec le succès qu'on sait, que la sécurité américaine était en danger et que par conséquent il fallait écrabouiller le dictateur sur lequel les États-Unis s'étaient momentanément appuyés pour rétablir leur domination. Car comme on le sait, depuis la fin du 19e siècle, le canal de Panama est une des zones contrôlées. Enfin, tout ça pour dire que ce sera peut-être l'objet, évidemment, d'autres émissions et pas forcément avec moi, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de compétences directement contemporaines. Tout ça pour expliquer que on est aujourd'hui, alors qu'on ne s'en rend pas compte, quand on est dans une période historique cruciale, et il est très difficile, évidemment, d'en saisir les linéaments, enfin les grands traits, on est entré, je pense, dans une période qui nous mène vers la bascule de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans une période qui a connu de nombreuses tentatives, y compris d'ailleurs celle représentée par De Gaulle, où la tutelle totale des États-Unis sur le monde a commencé à être mise en cause. Et ça fait ressurgir quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, mais dont on a déjà parlé ensemble, c'est-à-dire cette fameuse guerre en Ukraine, ou opération spéciale en Ukraine, dont la durée, évidemment, fait penser à une vraie guerre. On est en train de vivre quelque chose de très nouveau, puisqu'on voit se déployer toute une série de tentatives de mettre en cause le monopole américain, le monopole américain sur le dollar, les sanctions, qui, il faut le savoir, sont devenues la règle de fonctionnement d'impérialisme américain, je dirais, de fait bien avant, mais officiellement, sans restriction, depuis 1948 et depuis la guerre économique menée contre l'Union soviétique, c'est-à-dire en fait contre le bilatéralisme inter-européen. J'ai travaillé un certain temps sur le commerce Est-Ouest, qui a été une cible majeure des États-Unis. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le gaz, la pression des États-Unis, pression en apparence promise au succès, qui a consisté à liquider au bout de décennies d'efforts, je dis bien de décennies d'efforts, la prééminence sur l'Europe occidentale d'un gaz très bon marché, acquis dans les meilleures conditions, d'un gaz russe tout à fait avantageux, la liquidation de cette solution au bénéfice d'une solution qui n'a pas l'air de faire pleurer trop les Verts, fort otanisés et fort occidentaux, on est en train justement d'assister d'une part à un succès apparent énorme des États-Unis, puisque la perspective, c'est que nous n'ayons plus du tout d'échanges entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, mais précisément à un moment où l'ensemble du monde, ou une partie du monde, est en mesure de sortir de cette tutelle. C'est-à-dire que on ne mesurera jamais autant que Nous vivons aujourd'hui les conséquences énormes, aussi énormes pratiquement que 1917, de la révolution en Chine, du succès de la révolution en Chine d'octobre 1949, qui ont mené la Chine à une situation qui lui a fait récupérer, j'allais dire, son avance civilisationnelle de l'ère moderne, puisque la Chine est un pays qui aujourd'hui contrôle désormais la majorité relative des brevets déposés annuellement, que c'est un pays dont la croissance est extraordinaire, et qu'il ne suffit plus que l'oncle Sam fasse les gros yeux pour que le monde se plie. Et ça, c'est quelque chose qui nous ramène directement à 1945 avec la victoire soviétique, au début des années 1950 avec la conférence de Bandung qui établit, alors que les États-Unis sont dans une position hégémonique, qui établit tout de même l'amorce d'une volonté d'autonomie de l'Europe, du monde colonial ou post-colonial ou en passe de dépasser l'époque coloniale, et que sous la conjoncture, qui est une conjoncture effrayante, parce que c'est vrai que la folie à laquelle la tutelle américaine est en train de mener le pays jouet qu'est l'Ukraine est en passe de nous amener une catastrophe monstrueuse, enfin la perspective d'un affrontement nucléaire, parce que le court terme c'est quand même ça, se joue tout à fait autre chose, c'est-à-dire finalement la fin du blocage, la fin du verrouillage que Bretton Woods a imparti à l'ensemble du monde. Et il faut, je reviendrai sur une ancienne que j'aborde pratiquement toujours quand on discute ensemble, il faut que les populations ou le peu de populations qui nous écoutent mesurent à quel point l'histoire est une discipline majeure pour comprendre le monde. J'en profite pour dire un mot d'un ouvrage que je viens de lire et qui évidemment porte un titre qui permet d'être édité par un grand éditeur en zone occidentale. C'est un livre de Jeffrey Roberts qui a fait le très remarquable livre sur les guerres de Staline qui s'appelle Staline et sa bibliothèque, un dictateur et sa bibliothèque. Cet ouvrage justement montre à quel point l'expérience soviétique, et je dis bien dans un ouvrage qui porte le titre de « Le dictateur et sa bibliothèque », c'est un ouvrage qui montre que non seulement, évidemment, la Russie socialiste, ce n'est pas du tout ce qu'on nous en a expliqué, mais que le fameux Staline a amorcé quelque chose qui se mesure dans la position de tout ce qui n'est pas le G7 ou le G20, c'est-à-dire comment l'Union soviétique a joué un rôle important dans le processus de libération coloniale des peuples du monde, et comment, et ça j'y insiste beaucoup, le fameux dictateur a tiré une partie de sa puissance d'intervention de ce qu'il considérait comme une discipline reine permettant aux populations de saisir leur importance, c'est-à-dire l'histoire. Il portait une véritable vénération à l'histoire et il montrait d'ailleurs, puisque Staline est un militant qui a été grosso modo de la fin du 19e siècle à 1917, à mi-temps clandestin, c'est quelqu'un qui avait compris comment la science historique était en mesure, par les réactions, comment la connaissance historique était en mesure, par les réactions qu'elle provoquait chez des militants cultivés, disait-il, de mettre le feu à un village pour faire... Parce que, évidemment, c'était la Russie d'avant 1917 qui était bourrée de villages. Comment elle était en mesure de mettre le feu à un village, c'est-à-dire de faire comprendre aux villageois pourquoi ils souffraient et pourquoi il fallait changer le monde. Voilà, je trouve que dans cette période si inquiétante où nous allons connaître des crises affreuses, où les populations vont souffrir, largement souffrir, où pour beaucoup de pays dits développés a commencé à se dessiner le dilemme chauffer, se chauffer ou se nourrir, dilemme qui va devenir actuel à partir des mois de septembre et octobre, comment... non pas pour vouloir jouer les optimistes bêta, mais comment finalement l'histoire nous permet de voir les grands enjeux et de constater que dans les périodes les plus noires, il y a du ciel bleu qui se détache. Voilà, je crois que nous vivons une période historique extraordinaire.
Et tu nous as annoncé du ciel bleu parce qu'on peut en voir. Et c'est ça donc j'importe aussi, parce que malgré les souffrances annoncées, absolument, y compris par notre président, il y a du ciel bleu parce que la période est à un changement radical de tous les paradigmes historiques.
Depuis longtemps on discute ensemble du basculement historique, oui. Et nous sommes en train de mesurer que ce basculement historique est en train de se produire.
Mais comme ça met en cause la totalité des 8 milliards d'hommes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis il y a des soirs où on dit là, ça va très très mal, et il y a d'autres où on dit ça va dans le bon sens.
Etc. Voilà.
Et c'est de ça qu'il faut s'armer.
Et pour les âgés d'entre nous, et nous ne faisons pas partie de la jeune génération, c'est quand même une singulière satisfaction que de constater qu'après 50 ans de verrouillage, eh bien, le ciel bleu, sous l'orage, se dessine.
Peut-être vu, exactement. Merci beaucoup de nous avoir tiré cette conclusion optimiste. Merci, Annie.
Et voilà, pour poursuivre en musique cette arrivée du ciel bleu, je vais vous passer une chanson, je vous expliquerai après ce que c'est, mais quand on est en 1916, enfin quand Lénine est en 1916, la totalité de l'Asie est colonisée. Totalité, Inde, Chine, Indonésie, etc. Il ne reste que le Japon qui est un impérialisme secondaire. Aujourd'hui, il ne reste de coloniser dans la grande, dans l'immense Asie que Taïwan, la Corée du Sud et encore le Japon impérial, pour mémoire Singapour. C'est-à-dire l'histoire a basculé complètement en Asie, et c'est pour tirer un coup de chapeau à un de ceux qui a le plus marqué ce basculement, le peuple vietnamien, que je vous fais écouter une des chansons qui, au Vietnam, commémore la victoire donc du Vietnam contre l'impérialisme, qui n'a pas été la défaite de l'impérialisme, mais un revers considérable qui a amorcé ce grand mouvement de libération de l'Asie et donc de la majorité des hommes vivants aujourd'hui. Voilà, on écoute cette chanson vietnamienne pour continuer. Merci Sidi, bonne soirée à tous.